aussi une question sur le lien aussi que vous aviez sur les autres albums. Alors, je ne sais pas si c'est une idée que je me suis faite. Par exemple, pour toi, Mara, sur le John Newton, j'ai vu des noms de personnages, de clues, comme pour le Dr. Hawkins et l'inspecteur Hawkins. Mais je ne sais pas si c'était vous.
Non, je pense que c'est une totale coïncidence.
Ah, bon, voilà.
Mais c'est marrant, oui, c'était
par moment, voilà, cette sensation de découvrir aussi, quand on connaît les autres volumes, des petits points de référence. Hein, je ne sais pas si c'était vraiment le cas. Autrement, oui, on parlait aussi de la couleur de loup. Et ben, je voulais savoir, là, directement avec Eric, s'il y avait aussi un code couleur, un peu qu'on parlait du Cluedo tout à l'heure, où chaque personnage a une couleur, et cette couleur correspond aussi à un caractère bien défini sur le personnage, comme le connaît la moutarde avec la couleur jaune. Et je me demandais s'il y avait aussi ce... parce qu'ils ont tous une personnalité bien différente et finalement très complémentaire par rapport à quand on lit le premier album, c'est Détective. Et je voulais savoir s'il y avait ce code aussi qui était apporté sur...
Ça, le code couleur, en général, on y fait attention sur un peu tous les projets, parce que les couleurs veulent dire des choses. C'est des symboles d'émotion aussi, donc il ne fallait pas se planter là-dessus. Mais sur le travail de Simon, en plus du travail de base de la colorimétrie, Simon, alors c'est super pour le résultat, mais c'est un peu chiant pour nous, c'est que c'est le seul coloriste qui travaille comme ça, c'est qu'il vous fait remplir un vrai questionnaire de travail sur chaque scène. Quel est le ton, quel est le climat, quel est le moment de la journée, quels sont les protagonistes, quels sont les détails, quels sont les détails vestimentaires, quels sont... Voilà. Et en fait, on va lui remplir une espèce de fiche de travail qui va préparer tout son boulot en ce qui concerne l'ambiance. On passe par ce stade avec lui, ce qui permet, de coller au plus près pour lui du ton et de l'histoire et de l'ambiance voulue.
Donc là, il y a le dernier volume et le septième donc, qui sort cette année en mai. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà dessus par rapport à la série? Est-ce que ce sera une conclusion?
Oui, c'est la fin.
De la première saison.
De la première saison.
De la première saison, bien sûr. C'est la fin. Non, depuis le début, c'était l'intérêt de la série. Parce qu'à l'origine, en fait, Sylvain Guimbaud a commencé sur Miss Crumble, et moi j'espérais qu'on continue avec Sylvain, qu'il puisse faire tous les tomes, et qu'avec un délai de parution qui aurait été beaucoup plus long, mais ça aurait dû être une série classique de ce côté-là. Et en fait, c'est parce que Sylvain était engagé ailleurs qu'il a fallu repenser le projet, et se dire, c'est assez logique, un enquêteur par tome, donc un dessinateur par tome, mais on est parti comme ça. Et Sylvain, plus tard, a pu se libérer pour revenir et... Donc il ouvre le bal et il le termine. Mais c'est en ça où c'est plus du tout une série concept, c'est une vraie série en fait, avec un début et une fin. C'est Détective le début et Nathanaël c'est la mort.
Oui, il y a une volonté de non-tomaison, puisqu'il n'y a pas de tome, il n'y a pas de numéro de tome dans les volumes. Ce qui laisse la liberté quand même logique.
Oui, mais ça c'était ma double difficulté, c'était encore que toutes les enquêtes puissent se lire indépendamment et complètement, que ce soit une enquête complète, que vous ne soyez pas... dans l'attente, dans l'obligation de lire un autre album, si vous voulez juste lire un album comme ça, dans le train, vous voyez, c'est possible, vous avez une histoire complète, et en même temps qui appartient à un tout, c'est la double complexité de Détective.
Oui, même si je trouve que le dernier, John Newton, apporte énormément d'éléments sur la série, ses détectives, et que celui-ci faut vraiment se le réserver. En finalité.
Oui, de toute façon, c'est mieux lu chronologiquement. Si vous lisez toute la série, vaut mieux la lire chronologiquement.
Je vais profiter pour ajouter, en fait, moi j'ai pas mal de gens qui viennent me voir avec le sixième tome de Détective et qui n'ont pas lu le set Détective de base. Et donc voilà, si vous avez l'intention vraiment de lire la série, je vous recommande quand même vraiment de lire le set Détective. Certains ne connaissent même pas son existence, ce que je trouve un peu curieux. Et pourtant, dedans, il y a vraiment des indications très... c'est une très très bonne introduction. Et notamment, le personnage Ethan est quand même assez clé dedans. Donc il y a certaines choses qu'on comprend mieux dans le tome 6. On est un peu moins largué dans le tome 6 quand on lit celui-là. Donc je préfère vite le préciser.
Voilà. C'est pour ça qu'à partir du tome 5, j'ai commencé à mettre un petit bandeau d'informations dans la page de remerciement. pour prévenir les gens, voilà, tout dépend comment vous voulez lire la série. Parce qu'à partir de ce tome, c'est quand même relativement important d'avoir lu soit cette détective, soit des tomes précédents. Pareil, le tome 6 de Mara est plus intéressant en ayant lu aussi Miss Crumble.
Non mais de toute façon, il faut tout acheter, point.
Il y aura un coffret pour ça.
Ça fait pas, ça.
Il y aura un coffret pour...
Je sais pas.
Peut-être.
Donc il y en a en fait 3 qui s'articulent, enfin 4 même qui s'articulent au niveau de Londres. Et puis, et les autres... moi, il y en a qui me surprend, c'est celui sur donc Fisher Monroe, qui se passe bien plus longtemps après. C'était quelle volonté, parce qu'on avait l'intérêt là. La plupart, c'est l'après-guerre, la première guerre, et celui-ci se rapproche plus du coup de la seconde, de l'avant-guerre, de la seconde guerre, et je voulais savoir quelle volonté en fait derrière cela.
C'était pas une volonté particulière, c'est qu'en fait le personnage de Monroe est inspiré de des personnages de Mickey Spillane notamment, comme Mike Hammer, et vous voyez l'image d'Épinal du détective Art Boyd de Los Angeles, typiquement américain, qui emprunte autant, si ce n'est plus, au code du western que du boudonnite anglais. Donc voilà, c'est un personnage typique des années 30, je pense au Faucon Maltais, je pense à Dick Tracy aussi, vous voyez, ce type de personnage. Et donc, en le faisant intervenir en 1920 dans ces détectives, j'étais obligé d'avoir un très jeune Monroe pour qu'il puisse croiser les autres. L'intérêt de le replacer dans les années 30 dans son tome, c'était de le remettre à un âge plus mûr, dans son élément, à nouveau, comme pour chaque tome, c'était d'essayer de saisir le moment clé chronologiquement de ben voilà, cette image qu'on a du personnage et de l'exploiter au maximum. Donc c'était juste ça, en fait. C'était juste pour avoir un cadre qui colle à l'image qu'on a du personnage.
D'accord. Et pour Martin Beck, pareil, ça se passe en...
Ça se passe en 30...
plus tard, donc là il est commissaire.
Voilà. Parce que en le présentant dans ses détectives, Martin Beck, certains évoquaient Rouletabille. Et pour moi, c'était tellement évident que c'était Maigret, je l'avais à peine caché les clins d'œil au Jean Pombeur et à la bière. Quand il est plus jeune, du coup, il fume encore la cigarette. Et certains se disaient, mais c'est qui en fait? Et donc l'idée, c'était vraiment de l'assumer dans le tome 4 et de le voir commissaire, le plus jeune commissaire de. Du 36 Quai des Orfèvres et de le voir enfin dans son élément posé à l'image classique du Maigret d'avant-guerre.
Oui, donc ces volumes étaient obligatoirement indépendants de la période 1920 où ces détectives.
En fait, 1920, c'était en faisant les recherches préparatoires de ces détectives, je m'étais rendu compte que tous ces personnages fictifs, vu leur bio, pouvaient se rencontrer en 1920. Alors, c'était pas avec des grands écarts d'âge. Ou des anachronies de façon Maigret, si on compte toute sa carrière, il aurait dû avoir 80 ans, il est toujours commissaire, donc c'est bien, sinon on s'en foutait. Voilà. Mais en tout cas, c'était possible qu'en 1920, ils se croisent tous.
D'accord. Pour, pour conclure, pour revenir sur le dernier album avec Nathan Hines, avec un titre assez évocateur, je crois pas du mot, donc Elle, c'est la mort. Mm-hmm. Donc là, on a vraiment le personnage de Sherlock Holmes, un personnage qui a perdu toute motivation, dont son fidèle comparse Jonathan essaye de motiver. Bon, ça, il faut lire la série pour comprendre de quelle manière. Et donc, du coup, on se pose la question de ce personnage qui commence à s'éveiller dans ses détectives, mais comment, dont on parle et qu'on voit souvent avec le fil conducteur des romans qui sont à son sujet. Alors on se pose la question, c'est comment va-t-il intervenir? Est-ce qu'on va avoir ce personnage qui va mener réellement l'enquête? Ou un personnage plutôt... est-ce que tu peux nous dévoiler déjà certaines choses sur cet album ou...
Si je dis non, je suis mal barré.
Comme ça.
Non, mais alors... Il y a une phrase récurrente dans la série Détective qui est de La Fontaine qui s'appelle « En toute chose, il faut considérer la fin ». Parce que c'est le cas dans ma vie, c'est le cas dans une enquête policière. Et si vous regardez bien, Nathanelle, c'est le seul qui est évoqué dans tous les albums, en fait. puisqu'il est considéré comme le plus grand des détectives, il y a toujours quelqu'un qui fait une référence à Nathan Epps dans les premiers, et ensuite, il y a cette implication des livres qui commence à germer dans la série, où on va avoir des romans tirés de ses aventures qui apparaissent. D'ailleurs, c'était tout un travail pour nous de collaborer sur les fausses couvertures des romans, comment les imbriquer, comment les implémenter dans la série, comment jouer avec. Et donc voilà, le fil rouge de cette dernière enquête est lié à ça, oui. C'était un des indices qui était dans les précédents. Et donc le titre s'appelle Nathanael, c'est la mort.
Il y a du coup. Je vous laisse à chacun un mot de la fin, puisque là on est sur la fin.
Merci, c'était super.
Des questions.
Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'on a essayé d'évoquer plein de choses.
Moi, j'aurais une question sur l'écriture, justement. Comment on écrit... Bonjour. Comment on écrit des récits policiers? Voilà, pourquoi vous avez fait l'essai détective, ensuite vous avez fait plusieurs albums, avec, j'imagine, l'intervention des auteurs, des dessinateurs peut-être, qui ont apporté des choses sur votre scénario, ou pas? Pas du tout, d'accord, complètement d'autopilotage. Voilà, donc comment vous écrivez, puisqu'en plus, à partir de ces détectives, il y a quand même l'histoire du point de vue, qui est quand même relativement important. Comment vous perpétuez ça dans les autres albums?
Donc non, sur la partie scénario, en fait, les dessinateurs ne sont pas impliqués, parce que sauf dans le cas de deux dessinateurs qui étaient Thomas et Julien, je ne savais pas quels allaient être les dessinateurs qui allaient dessiner les albums. Donc j'ai travaillé comme d'habitude, c'est-à-dire le plus enfermé, le plus seul possible, en mode grotte, ce que j'appelle, voilà, parce que je me mets en mode infusion. Et voilà, et par contre j'aurais proposé des scénarios terminés, complets, le plus précis possible, mais sans trop les envahir de description, puisque pour que leur pas créatif.
Heureusement.
Enfin, c'est pas grave, enfin, voilà, c'est des scénarios qui...
Il est quand même ultra descriptif.
Ah bon?
Mais c'est pas mal. Mais en même temps, la description nous laisse une liberté. C'est pas une description qui nous enferme. C'est une description qui nous met dans la peau du personnage. Et c'est plus une description de ressenti que de description pure. Il y a un gobelet, il y a une fourchette. C'est pas cette description.
Ce que j'allais dire, je vous envoyais pas de détails.
Deux pages.
Et non, mais tout à l'heure, ils ont évoqué, Thomas a plusieurs fois évoqué le lourd pavé narratif. On va dire les litres de bave que les personnages. C'est parce que moi je suis obligé de noyer le poison, en fait. Le fil de l'intrigue, je suis obligé de le noyer dans beaucoup de dialogues, puisque en fait dans un livre ça va être noyé naturellement parmi les mots, c'est le vocabulaire du livre. Là on a autant des détails graphiques, tout passe par le dialogue, donc je suis obligé de planquer mes indices dans beaucoup de volumes de mots. C'est pas un plaisir. Si, c'est un plaisir de l'écrire, mais c'est pas un désir particulier. Je pense que pour ça marche, pour que les rebondissements marchent, faut pas les voir venir. Donc, il faut les planquer dans ce volume de dialogue. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, vous partez.
D'ailleurs, du coup, je me permets. Il y a une exposition donc sur les planches de ces détectives. Et on peut voir du coup, une partie de tes scénarios, enfin, ce que tu as envoyé aux auteurs, pour bien comprendre la corrélation entre les planches et les storyboards et le scénario envoyé.
Bah, au niveau du scénario, d'ailleurs, c'était assez déroutant. Tout à l'heure, j'évoquais une écriture qui peut se rapprocher de l'écriture d'une pièce de théâtre, à la Molière. Il y a très peu d'éléments, en fait. On nous indique les changements de pièces, mais il n'y a pas la description du mobilier, contrairement à ce qu'on trouve généralement dans un scénario de bande dessinée. Et il y avait les dialogues et les émotions que les personnages devaient dégager à ce moment-là. Et ce qui était assez déroutant, c'est qu'on recevait... En fait, il y avait du texte plein les pages, et il y en avait autant que le nombre de pages, qui fait que la première réflexion que j'ai faite à Eric, c'est, t'es bien gentil, mais si tout ça c'est le dialogue, où est-ce que je dessine, moi? Et il m'a dit, j'écris encore 12. Ça sera un... Et les textes dans les bulles seront mis encore 6. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'était un peu... Enfin, il y a des gens, d'ailleurs, qui se trouvent que sur la série, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de dialogues.
Il faut aimer la lecture.
Voilà, il faut aimer la lecture et il faut se rappeler que c'est exactement comme un roman. Il faut se plonger dedans, il ne faut pas se poser la question si c'est comme d'habitude. Non, c'est différent. C'est une BD différente de ce qu'on lit d'habitude.
Et même pour les dessinateurs, c'est... Enfin,
ça a été la partie, finalement, ouais, de, comme dit Cyril, la plus compliquée parce que en BD, on n'a pas forcément... On a du dialogue, mais c'est le dessin qui va primer. Alors que là, sur cette série-là, malgré tout, c'est l'inverse. Non, c'est pas un compliment, justement. C'est un problème. C'est vrai que c'est le plus important, c'est ce qui va sortir de la bouche des personnages. Le décor, on place l'ambiance. Mais finalement, ce qui est important, c'est les mots. Et comme dit Eric, il noie les indices dans son vocabulaire. Alors que nous, d'habitude, notre travail, c'est de, dans les histoires, c'est de le noyer dans le dessin. Donc c'est vrai que ça a été pour ma part, plus compliqué. Parce que le découpage, c'était une horreur. Je plaçais des bulles et après, j'avais effectivement plus de place. Je ne savais pas où j'allais commencer à faire le décor qu'il voulait avec ses 50 bagnoles et ses 25 immeubles. Alors que j'avais la place de faire une mouette qui vole. Ça a été un travail vraiment intéressant là-dessus, malgré tout. Quoi.
Et... Vous avez fini?
Ouais.
Non, à la décharge quand même, c'est beaucoup moins nerveux qu'un Blake et Mortimer. Et...
C'est parce que les dessinateurs ne savent pas dessiner dans Blake et Mortimer. Un peu expliqué les dessins.
Non, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique quand même entre le dessin et le texte. Qui fait qu'il n'y a pas de rupture.
Parce qu'on est bon, monsieur Grégoire.
Et c'est ça,
parce qu'on est bon.
Moi aussi, je fais des compliments. Et donc, il y a une bonne fluidité sur l'ensemble des volumes, que ce soit du set ou la série détective, où finalement, même si par moment il y a beaucoup de choses à dire pour au niveau de l'enquête, parce qu'il y a aussi il y a l'enquête, il y a le personnage, on voit qu'on essaie d'approfondir beaucoup de choses, et c'est ce qui donne cette BD riche. Avec les dénouements qui se font vraiment sur les dernières pages. Et il y a une très bonne fluidité, une très bonne dynamique.